Philippe Vandel est de retour avec sa série des Pourquoi pour répondre à toutes vos questions sur les Jeux Olympiques.
Il y en a tellement. Pourquoi un joueur de foot ne peut pas retirer son maillot pour célébrer un but? Pourquoi l'équitation est-elle la seule épreuve mixte des Jeux Olympiques? Et d'ailleurs, pourquoi certains sports sont-ils olympiques et pas d'autres? Des questions évidentes, mais des réponses étonnantes. Plongez avec moi dans l'univers fascinant des Jeux Olympiques et du sport.
Les Pourquoi des Jeux Olympiques, un livre surprenant de Philippe Vandel, aux éditions Kerrot.
Vous écoutez
RMC.
Les GG.
Restez donc surtout en piste, Fangio et Brooks. Mais Fangio devait l'emporter.
Les avants français ressortent le grand jeu, Dwyss en tête. Dwyss, c'est le Pelé de l'équipe française.
C'était mieux avant.
Le tournoi Destination 1977 est le règne des cinq nations, est le règne des invincibles.
En cet hiver 77, alors que la France de Giscard se débat contre les effets de la crise économique, que Claude François vit ses derniers mois de chanteur vedette, la France du sport, elle, se prépare à connaître ses plus belles années. Dans les baquets de Formule Renault, un jeune pilote nommé Alain Prost rafle course sur course et s'apprête à faire ses débuts en Formule 1, pendant qu'en football, un autre jeune prodige originaire de Nancy découvre, lui, le maillot bleu de l'équipe de France, avec laquelle il va rapidement apprendre à gagner. Mais en ce début d'hiver, les Bleus dont on parle le plus sont au nombre de 15. 15 hommes de fer qui composent l'équipe de France de rugby. Battus d'un rien l'année précédente au Pays de Galles, les Bleus se sont vus privés d'un grand chelem attendu depuis 8 ans. Alors, ce samedi après-midi, sur leur pelouse fétiche du Parc des Princes, ils comptent bien étriper les Diables Rouges de Gareth Edwards, vainqueur de 7 des 12 derniers tournois et considéré comme la meilleure équipe au monde. Et pour cela, les gros par-dessus de la Fédération française comptent sur un homme en particulier. À 29 ans, Jacques Fourou a été nommé capitaine de l'équipe de France pour ce match. Un timonier qui entend bien, une fois pour toutes, devenir le vrai patron des Bleus, lui qui depuis plusieurs saisons subit la concurrence du demi de mêlée et capitaine de Béziers, Richard Astre.
Abondance de biens peut parfois nuire. Prenez l'équipe de France de rugby. Elle a deux capitaines potentiels, Fourou et Astre. Deux capitaines, chacun le sait, c'est trop pour une seule équipe. Donc, casse-tête chaque fois pour les sélectionneurs.
C'est Jacky Fourou qui a été choisi. Fourou, le chef de famille, qui sera donc également aux commandes du 15 de France devant les Gallois. Ainsi donc, le chassé-croisé Fourou-Astre se poursuit.
Le ballon pour Astre. Le roi Richard et son jeu chatoyant, tellement différent de celui de Fourou, le roquet, meneur de gros, vainqueur cette année-là, par KO.
On l'a vu. On était quelques-uns, les postulants. Poste de demi-mêlée très convoité. C'était la guerre. Il y avait eu un sondage où, bien sûr, j'étais dernier. Mais c'est moi qui jouais. Vous voyez, c'est rigolo, non, quand même. Ça en fait des erreurs de casting, des erreurs. Mais bon, il en fallait qu'un, hein. Non ? Il en fallait qu'un.
Et le sondage publié dans l'équipe qui plébiscite Astre, désiré par 71% des lecteurs, n'y fait rien. C'est Fourou et c'est seulement 13% d'admirateurs qui portera le brassard cet après-midi. L'horloge du Parc des Princes approche maintenant des 15h. Il est temps de retrouver Pierre Albaladejo et Roger Couder, fin prêt à faire vibrer les téléspectateurs d'Antenne 2. Alors bah là, la France, favorite ?
Je trouve que tout le monde est très optimiste ici et faut pas perdre de vue quand même que l'équipe du Pays de Galles est peut-être une des meilleures équipes du monde, c'est sûr. Mais elle domine le tournoi depuis 5 années et je crois que ça serait une, non pas une surprise, mais un grand événement si la France gagnait tout à l'heure.
Mais je pense que ça serait un exploit et je crois que les Français vont accomplir cet exploit.
Rassemblés en rond autour de leur capitaine à l'écoute de la Marseillaise, les Bleus, regards noirs et muscles saillants semblent déterminés. Dans le vestiaire, la préparation a été musclée tout autant que les consignes. Roland Bertrand, le trois-quarts centre des Bleus, se souvient de celle donnée par Fourou à son deuxième ligne, Michel Pamier, son 1m97 et ses 118 kilos.
J'arrive à Pamier, il y avait JPR William, là, l'arrière, qui aimait bien revenir au milieu des avants pour aller un peu défier. Jacques Fourou lui a dit, si on peut l'attraper, bon, faut pas le manquer. Et Palmier, il a dit, tant pis s'il ne joue plus au rugby. Et ils l'ont attrapé aussi. Je crois qu'il n'était pas content.
Et attention, si l'arrière des Dragons et ses fameuses rouflaquettes s'en sortiront ce jour sans mal, d'autres auront moins de chance dans le futur. Les exploits de la Palme, sorte d'Obélix bitérois, lui vaudront même les honneurs du Times, qui en fera l'un des 10 rugbymen français les plus effrayants de l'histoire, rien que ça. Mais si le 15 de France fait peur et fait mal, il sait aussi manier le ballon. Et à la 55e minute, Dominique Ariz, l'ailier des Bleus et du Stade Toulousain, qui a remplacé à la dernière minute un jeune joueur nommé Guy Noves, inscrit le deuxième essai français, celui de la victoire.
Tangali,
Tagali dans les 22. Bastia, Bastia, Fourouk, que c'est beau. Fourouk, Harid. Harid, Romeu. Romeu. Et c'est laissé par Harid. Quelle merveille.
Je crois quasiment toute l'équipe a touché le ballon. Et moi, j'ai fini le boulot de ce qu'avaient fait les autres. Quoi. C'est...
Les Rouges sont balayés 16 à 9. Et pendant que la presse française s'enorgueillit du succès des Bleus, de l'autre côté de la Manche, on se prépare au traquenard. Oui, car voici que se profile le crunch face à l'ennemi héréditaire anglais. Les Bleus y sont présentés comme une horde sauvage. Les tabloïds appellent même à descendre Jean-Pierre Bastien, le troisième leader français, auteur d'une cravate sur un gallois deux semaines plus tôt. Alors, à leur arrivée à Twickenham, la bande à fourreaux reçoit un accueil musclé. Le journaliste Denis Lalanne couvrait ce jour-là la rencontre pour l'équipe.
À l'entrée de l'équipe de France à Twickenham, on leur a craché dessus. C'est tout à fait authentique. Ça a été, je pense, le pire que la France ait subi à Twickenham.
Et la rencontre sera du même tonneau. Jean-François Imbernon, le solide deuxième ligne des Bleus, en garde un drôle de souvenir.
C'était le Boucherie. Voilà, c'était le Boucherie. Alors c'est sûr que maintenant, avec la loupe et les nouvelles règles d'aujourd'hui, peut-être qu'on aurait fini à 3 contre 3 devant, mais bon, je ne sais pas. Ouais, les troisième ligne auraient pu jouer les uns contre les autres, voilà, parce que c'était les seuls qui peut-être étaient moins sollicités, je veux dire.
Oui, mais rien n'y fait. La horde sauvage de Fourroux va même s'imposer en terre anglaise sur un score d'un autre temps. 4 points à 3. Les 4 points que valait à l'époque un essai, en l'occurrence celui de François Sangali.
Fourroux, Aguirre, à vous ce qui surgit, Aguirre encore, et Sangali, c'est l'essai 4 à 3. C'était le score final.
Eh bien, on s'en souviendra de ce dernier quart d'heure à Twickenham. On s'en tire, la route du Grand Chelem reste ouverte, et après ce qu'on a vu aujourd'hui, je crois que tout est possible à l'équipe de France.
Et pourquoi pas, je vous sens toujours optimiste, Roger, c'est chouette.
Roger Couder est optimiste, mais la presse française, elle, fait la fine bouche. Le journaliste de TF1, Bernard Giroud, va même vexer Fourroux par ses questions.
Jacques Fourroux, vous ramenez dans vos bagages une victoire, un succès peut-être sans éclat ni prestige, mais une victoire tout de même.
Succès sans éclat ni prestige, c'est vous qui le dites. C'est un match excessivement difficile à jouer et devant une excellente équipe. Alors, je crois que c'est une grande victoire du 15 de France.
Mais ces critiques, les Bleus vont s'en nourrir pour la suite du tournoi. Oui, seule face au reste du monde, la bande à Fourroux se recroqueville sur elle-même. Deux semaines plus tard, la voilà à nouveau réunie à Paris pour préparer le match face à l'Écosse. Une préparation à l'ancienne, entamée, c'est une tradition, le mercredi midi, à seulement 3 jours du match, par un déjeuner arrosé dans un restaurant parisien.
On vivait entre nous. Je vais vous raconter, moi. Nous nous réunissions. Alors ça s'appelle l'Enclos de Ninon, boulevard Beaumarchais, je crois, à Paris. Un truc extraordinaire. L'ancien coin frais, vous ne pouvez pas imaginer. Coin frais. Et jusqu'au dernier match, on essaie de retrouver les 15 là-bas. 15. Et on se retrouvait, c'était là, la communion. La communion, voilà, le mot-clé, il est là. Il y avait communion.
Et après un tel repas pantagruélique, difficile évidemment d'attaquer l'entraînement. Le rassemblement commence donc par une sieste réparatrice. Mais ne vous y trompez pas. 3 jours plus tard, sous le doux soleil du printemps parisien, ils sont prêts à défier l'Écosse. Un match que les Bleus vont dominer de la tête et des marrons, et notamment celui de Gérard Chollet. Chollet marron, évidemment. Le pilier castré, ancien para, devenu boxeur poids lourd, avant de découvrir le rugby. Pour autant, il n'a pas oublié ses années sur le ring, et McDonald, de troisième ligne écossais en position de hors-jeu, va en faire la meilleure expérience.
On nous avait dit, les gars, les mains dans les poches, on ne répond pas, etc. Même s'ils sont au jeu. Et là, à la maison, on a dit, quand ils vont le dire à la maison, ça va changer de situation. Et manque de peau.
Oh,
alors là, j'ai vu un mauvais geste de Chollet. Je le dis comme je l'ai vu.
C'est un petit réflexe. Bon, ben, ouais, le pauvre. Bon, et il faut être efficace. Je pense que je l'ai été.
Je connais assez Chollet, qui est un garçon très correct. Il y a eu sûrement quelque chose que nous n'avons pas vu dans la mêlée. Mais par contre, le geste de Chollet, le crochet du droit de Chollet, nous l'avons vu.
Et McDonald aussi l'a bien vu. KO pendant plusieurs minutes, il reprend finalement sa place sans qu'aucun protocole commotion ne soit pratiqué, ni aucun carton distribué. À l'époque, tout cela n'existait pas. Un geste qui vaudra tout de même à Chollet les réprimandes d'Albert Ferras le soir au banquet. Le président pensera même à exclure le pilier pour le dernier match avant que Jacques Fourroux ne se lève et apostrophe Ferras lui disant « Ne changez aucun joueur président et je vous promets qu'on fera le grand chelem. » Non, on part à 15 et on finit à 15. Tel était l'état d'esprit de la bande à Fourroux. Les 15, que voici désormais sous la pluie de Dublin pour le dernier match de ce tournoi, celui qui doit les conduire au grand chelem. Cette fois-ci, dans le vestiaire, ça ne rigole plus. Toto Desclot, l'entraîneur des Bleus, a même préparé une petite surprise à ses joueurs, histoire de les faire grimper au rideau.
Sur le sol du vestiaire, un magnétophone dans lequel on a glissé une petite cassette. Et c'était Nabucco de Verdi, le chant des esclaves. Et on se tenait comme ça, tous en cercle. Vous voyez qu'il y avait 15 mecs là qui étaient prêts à... Oh, j'allais dire à mourir, n'exagérons pas, mais c'était chaud quand même. Match en Irlande, dernier match du Grand Chelem. Et là, nous avons eu nos 3 minutes de Nabucco.
Et le cœur des esclaves résonne encore dans les têtes des hussards français lorsqu'à la 48e minute, Jean-Pierre Bastia inscrit l'essai de la gagne, celui du Grand Chelem.
Kourou, Romeu, aïe, Romeu. Zangali, Aguirre, plein champ, Aguirre, Paco, Paco Bastia, Bastia. Quand qui va marquer,
Bastia laisse le soleil, et Bastia a placé, magnifique. Oh, vive la France.
Douce pour la France avec la transformation d'Aguirre. Les Français ont gagné le grand chelem.
Le petit caporal a tenu sa promesse. Les Bleus sont sur le toit de l'Europe, un succès qui n'apportera pas pourtant à son capitaine la popularité. Non, pour les amoureux du jeu à la française, Fourou restera à jamais le suppôt du rugby de tranchée, rugby de muerte, indigne du French Flair. Quelques mois plus tard, après une défaite face aux All Blacks, il subira même une interview musclée de la part de Pierre Salviac.
Jacques Fourou, vous voici aujourd'hui le capitaine d'une équipe de France qui perd. Alors qu'est-ce que ça va changer?
Ce qui peut changer, c'est ce soir au cours du banquet, je me trouverai dans la peau d'un capitaine qui a perdu. Je n'avais plus l'habitude.
La véritable sanction, c'est celle du public. Vous avez fait plus de mal au rugby que de bien.
C'est là aussi votre avis, mais je t'en parle du contraire. Vous n'avez quand même pas de grandes références rugbystiques. Beaucoup de gens qui me jugent sont un peu dans votre cas.
Vous êtes un gagne petit, vous avez une passe de maçon. Vous ne plaisez pas, alors qu'est-ce que vous faites dans le caisse de France?
Passe de maçon, d'abord il n'y a pas de sous-métier. Peut-être un gagne-petit, effectivement. Je m'y sens bien. On me prend, je viens.
Et 3 semaines plus tard, après un pâle succès contre la Roumanie, Fourou, le mal-aimé, choisit de quitter les Bleus et son brassard plutôt que d'être viré à coups de pied aux fesses. Un au revoir plutôt qu'un adieu pour le Gascon qui, en 1981, tel Napoléon revenant de l'île d'Elbe, est rappelé pour devenir le nouveau sélectionneur. Mais à la différence de l'empereur, le petit caporal ne restera pas seulement 100 jours à la tête des Bleus, mais 9 longues années, 9 ans de succès, 6 tournois remportés, dont 2 couronnés d'un grand chelem. L'époque des Rives, Blanco, Cella et autres Charvet. Les artistes français du ballon ovale menés d'une main de fer par un fabuleux technicien dont on disait pourtant qu'il avait une passe de maçon.
Exceptionnelle histoire racontée par Christophe Cessieux, les Invincibles de 77. J'ai la réponse à la question que je vais vous poser. Je vous la pose, les GG. Que retenez-vous de cette fabuleuse histoire des Invincibles? Marie Martineau.
Deux choses. Le Nabucco de Verdi, que j'entendais quand j'étais petite, parce que ma mère était fan de ce morceau, elle le mettait souvent à la maison, et c'est un morceau avec lequel j'ai grandi, et donc je l'imagine dans le vestiaire comme ça, et j'imagine un espèce de moment incroyable, tu me l'as conté en tout cas de cette manière-là. Et la violence de l'interview.
Avec Pierre Salviac. Incroyable.
Vous êtes un gars petit. Ah bah d'accord,
ça, vous désolé. Vous
faites
plus de mal au rugby d'autre chose.
Les réponses ouais. Du tac au tac, mais aucune.
Je me demande s'il n'y avait pas de la complicité finalement entre les deux et que c'était pas. Parce que ça semble tellement gros que c'est dingue quoi.
Mais en tout cas,
c'était
je me dis.
Préparé. Oui.
Parce qu'aujourd'hui, tu dis ça à un joueur.
Il te met une baffe,
ah, mais ça part en pugilat, enfin, j'imagine. Pascal Duprat, que retiens-tu?
Oui, moi je voulais dire 2 choses, si tu permets, Jean-Christophe.
Bien sûr.
Je peux complètement répondre à ta question. D'une part, remercier Christophe et à la fois le pardonner. Donc je le pardonne d'être arrivé qu'à 11h30 parce que franchement le talent on autorise tout. Donc c'est juste génial.
Merci, mon Pascal.
Ok. Donc vraiment c'est juste génial. Et en fait je me suis replongé en voyant Fourou, toutes ces images et puis plus tard quand il était sélectionneur, Rives, le maillot maculé de sang. Mm-hmm. Voilà. Donc merci pour ça. Et puis la prochaine fois tu peux venir à 11h30.
14h30. Et puis, tu mérites une augmentation. Je te le dis bien volontiers, parce que c'est pas moi qui te paye.
T'as bien raison. On va en parler. Je vais devoir pousser en ce sens, mais vu ce qui s'est passé à 9h30 dans ce studio où j'ai été violenté par Christophe Cessieux, il n'est pas impossible que.
L'agression.
Que je monte pas au front. Voilà, on verra. Mais bravo, c'est vrai, Christophe. Renaud.
Moi, ce que je retiens, c'est l'échange avec Ferras, où Fourou demande à maintenir Cholet, qui en dit long sur ce qui va se passer, sur la relation du fils maudit, en fait, entre Fourou et Ferras, qui va trouver un développement avec la finale quand Fourou est entraîneur de Grenoble en 93, où l'arbitre est nommé par Lapasset et Ferras, qui étaient devenus les ennemis politiques de Fourou. Et l'arbitre, je ne sais pas si vous vous en rappelez, qui fait perdre Grenoble, et ça fait toujours parler. Et c'était quand même un rugby d'un autre temps. Et Fourou qui est allé derrière jusqu'à l'affront ultime, créer une ligue professionnelle de rugby à 13 pour aller tête contre tête avec Ferras.
Le Direct Studio, il y a Eric qui nous dit « J'ai adoré, que de souvenirs, merci pour ce moment ». Évidemment, tout laisser était mieux avant, à retrouver en podcast. Il y a une petite vignette maintenant, juste à côté des grandes gueules du sport. Il y a la magnifique tête de Christophe Cessieux, mais c'était mieux avant. N'hésitez pas à y aller, vous pouvez tout réécouter. Et personnellement, pour un humoriste comme moi, mention spéciale à Cholet Marron. Voilà, franchement,
ah ouais, Cholet Marron, bon.
Sublime. Tu vois, même dans l'extrait, je rigolais alors que j'avais encore le micro ouvert, je n'aurais pas dû. Mais voilà, c'était de bon cœur.
Semaine prochaine, je vous parle de mon idole de jeunesse.
Alors attends. Rocco Siffredi?
Non, j'étais déjà grand. J'étais déjà grand, c'est ma deuxième idole.
Je me suis dit 12 minutes sur Rocco. Bon, c'est qui?
Johan Cruyff.
Cruyff, oui. Ça va plaire à Pascal. Ça.
Ah ouais, je pense.
Il va adorer, ce sera dimanche prochain. Viens donc juste pour 11h30, ouais, voilà, on l'a bien compris, c'était le message de Pascal.